France Inter. Créatrice de mode et artiste peintre née à Buenos Aires, Vanessa Siward a œuvré chez Chanel et Yves Saint Laurent et a été pendant 10 ans la directrice artistique de la maison Azzaro avant de fonder la marque qui portait son nom. Les créations de celle qui a aussi officié pour le théâtre et collaboré avec La Redoute allient élégance et intemporalité. En parallèle de son impressionnante carrière dans l'univers de la couture, Vanessa Siward est aussi peintre et expose ses portraits en galerie. Elle a publié le guide de la Gentlewoman chez Lattès, prétexte pour parler d'elle avec malice et prodiguer des astuces à quiconque tient à son authenticité. Elle a récemment signé des pièces pour la marque Bonpoint et a été nommée il y a quelques mois, alors qu'elle pensait peut-être ne plus travailler dans la mode, directrice de la création de la marque de cachemire écossais Beg & Co. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Vanessa Siward.
Bonsoir Eva.
Je prononce Siward à la française avec votre autorisation.
C'est parfait.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Un soufflet.
Un soufflet ?
Oui, que vous avez mangé hier soir.
Vous l'avez fait vous-même ?
Non.
Il était à quoi ?
J'en ai mangé un au fromage et un à la vanille.
Ah oui, en sucré et à salé.
Oui, voilà.
Vous étiez chez quelqu'un qui maîtrisait l'art des soufflets.
Non, dans un restaurant, je peux dire le Récamier.
Ah oui, oui. Qui est vers Saint-Germain-des-Prés,
Oui, Sèvres-Babylone.
D'accord. Oui. Je crois que c'est leur spécialité, mais je n'en ai pas goûté.
Oui, c'est ça, et voilà, ça m'a beaucoup enthousiasmée.
Bon, c'est accessible comme enthousiasme.
Oui.
Vos parents souhaitaient vous appeler Isadora en hommage à la danseuse Isadora Duncan, mais le nom n'est pas reconnu en Argentine.
C'est exactement ça. Donc, il y avait comme une liste officielle et voilà. Donc,
pas de liberté pour les prénoms en Argentine.
Non. Et c'est Vanessa Redgrave qui avait joué le rôle. Donc, visiblement, le film les avait marqués. Bon, elle meurt à la fin. Mais...
Ah ouais. Bon. Et en deuxième prénom ?
Paola.
Ah, d'accord. Vous dites qu'enfant, on ne vous prenait pas au sérieux. Je vous cite, « J'étais réputée plutôt jolie, mais sans grande substance. »
Oui, j'ai deux sœurs aînées et un frère, donc on est quatre. Et, bon, c'était peut-être dans ma tête, mais c'est comme ça que je ressentais. J'ai une personnalité, voilà, je suis plutôt introvertie. Et voilà.
Est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs vos vêtements de ce soir ?
Ben, en ce moment, je m'inspire beaucoup de Gary Cooper. Et donc, j'ai un pantalon qui fait un peu années 40, taille haute, mais que je ceinture à la taille avec des bottes à talons qui ne se voient pas beaucoup parce que le pantalon est long et une chemise en chambray avec un pull en cachemire. Voilà, et le pantalon et le pull sont beige.
Qu'est-ce que c'est que le chambray ?
C'est un coton, un peu façon denim léger.
Là, vous avez parlé d'un acteur. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot sur un film que j'adore aussi, qui est American Gigolo de Paul Schrader, parce que je sais que la garde-robe qui a été faite pour Lauren Hutton vous a beaucoup influencé.
C'est un très bon film, mais esthétiquement, il m'a beaucoup influencé. Que ce soit Richard Gere, qui est, je crois, habillé par Armani, et toutes les tenues de Lauren Hutton, enfin, elles pourraient être parfaites aujourd'hui. Elles sont complètement intemporelles et j'adore cette qualité. Et c'est une sensualité que j'aime beaucoup parce que c'est sexy, en subtilité. C'est ni bourgeois, ni... Enfin, c'est juste...
On suggère,
c'est sensuel, c'est parfait.
Comment avoir de l'allure quand on n'a pas beaucoup de moyens ?
Ouais, je pense que c'est pas vraiment une histoire de moyens, c'est plus... Trouver son style, trouver ce qui vous va bien. Moi, je suis très partisan de acheter une fois et acheter bien.
Une très belle pièce plutôt que plusieurs de mauvaise qualité.
Voilà, c'est ce que je fais depuis toujours. Je garde mes vêtements, je jette rien. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment chercher des choses qui vous vont bien par rapport à sa morphologie et pas tenir vraiment compte... des tendances et des choses comme ça.
Est-ce qu'il y a une tenue imparable, une tenue avec laquelle on est sûr de faire un sans-faute ?
En ce moment, j'aime beaucoup, par exemple, c'est pas mal de mettre une couleur. enfin, d'être un peu monochrome, des choses comme ça, parce que ça met en général la silhouette en valeur et déjà, ça réduit les risques. Mais encore une fois, je trouve que les fautes, justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est voir la personnalité des gens.
Vous dites d'ailleurs dans votre livre, Le Guide de la Gentlewoman, que le mauvais goût est important pour vous et qu'il ne faut pas en avoir peur.
Oui, je trouve ça très ennuyeux. Par exemple, dans la mode, j'ai pu à des moments ressentir comme un espèce de terrorisme de la coolitude. Il fallait être cool à tout prix ou légèrement intellectuel. Et ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse dans la mode. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est en tant que femme d'avoir des choses qui me mettent en valeur, qui éclipsent pas ma personnalité. Et je trouve que c'est en plus c'est important d'être léger, justement, de s'amuser avec la mode. Voilà, si on a envie de ressembler à une danseuse, je trouve ça super. Parce que, voilà, au moins, ça montre de la personnalité. Et puis, si ça va avec la personnalité, au contraire, ça, je préfère ça que... Il n'y a rien de pire que la mode qui se prend au sérieux.
D'ailleurs, dans votre livre, il y a tout un passage sur le contre-cool. Et vous citez Dave qui dit, mais je le cite de mémoire, qu'au début, on est ringard, ensuite on est kitsch et ensuite on est culte. Parce que vous appréciez justement, vous citez des personnalités qui au début étaient considérées comme ringardes pour leur style et qui finalement sont devenues cultes.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait peut-être le prince Charles ou des gens comme ça dedans. Oui, enfin... Moi, quoi qu'il arrive, encore une fois, je trouve ce qui est ennuyeux, c'est le conformisme de la mode, c'est ça. Et ce qui m'attire chaque fois, c'est la créativité qu'on peut avoir de se créer un personnage, ou en tout cas d'exprimer sa personnalité. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, on a comme un uniforme, ou moi-même, hein, parfois je suis comme ça, d'espèce de basket, jean, doudoune en hiver, et choses, t-shirt, et c'est vrai que c'est quand même un endroit où on peut beaucoup s'exprimer et c'est marrant. Justement, dans ce monde d'apparence, même avant de parler, on peut exprimer des choses et ça crée des connexions. Ouais.
Est-ce que l'habit fait le moine ?
Oui, je trouve quand même. Alors, même si on s'en fout on montre qu'on s'en fout de la mode, on est en train de raconter quelque chose quand même. Donc.
D'ailleurs, vous citez l'anecdote de Roger Moore qui se souvient qu'il avait croisé Christopher Reeves à la cantine, d'abord en Superman, tout le monde était en pamoison, et puis quand il est venu en Clark Kent, personne ne l'a regardé.
Ouais. Je pense que souvent, c'est même dans la tête, c'est peut-être juste il y a un vêtement qui te donne confiance, et ben on va se comporter différemment, peut-être parce qu'on le sent, mais... Et c'est cette magie-là qui, moi, m'a toujours... fascinée, c'est pour ça que je suis devenue créatrice au mode. Je voulais créer des vêtements qui me donnent ce super pouvoir.
Oui, parce que parfois certains disent qu'il est superficiel de s'intéresser aux vêtements, mais en fait les vêtements c'est la façon dont on se présente au monde.
Exactement, donc je pense que tout le monde s'habille le matin et tout le monde peut se poser la question, donc quand même, c'est peut-être pas l'essentiel, mais voilà.
Ce n'est pas anodin. Vous arrive-t-il de mal vous habiller ?
Bien sûr.
C'est vrai?
Oui. Ça m'habille, oui, souvent. Enfin, presque parfois, j'aime bien quand je suis chez moi, je ressemble à rien. Et voilà, c'est comme ça. Mais peut-être j'ai besoin de ça pour faire la différence quand je m'habille. D'ailleurs, souvent, j'aime bien créer quand je ressemble à rien.
Regardez-vous plus stylistiquement parlant les femmes ou les hommes?
Les femmes.
Je m'attendais à cette réponse.
Mais maintenant, justement pour Bag & Co, je commence à faire des collections pour hommes. Donc, je m'intéresse de plus en plus aux hommes, enfin, stylistiquement parlant. Et aussi, même pour moi, j'ai 55 ans, donc voilà, j'essaye de trouver un style, enfin, d'adapter mon style un peu. Et je m'inspire de plus en plus d'hommes, mais tout en étant féminine, voilà. C'est...
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Vanessa Seward, votre mère Helenita, argentine d'origine anglaise, était peintre. On va parler de l'influence qu'elle a eue, évidemment, concernant la mode sur vous, mais vous a-t-elle aussi influencée pour la peinture ?
Oui, elle m'a aussi influencée pour la peinture parce qu'elle était peintre, elle faisait des portraits. Et c'est vrai que quand j'étais petite, jamais je pensais que j'allais faire ça. Ça me semblait, je sais pas, inatteignable. Enfin, pendant très longtemps, je pensais que, quoi qu'il arrive, que je dessinais pas bien. Je m'excusais toujours, même quand je faisais mes croquis de mode. Et en fait, c'est pendant le confinement. J'allais la voir, elle ne voyait personne, et j'allais la voir avec ma fille. Elle donnait des cours de dessin, et puis voilà, j'ai commencé à faire des portraits à ce moment-là, justement pour aussi illustrer le livre que j'étais en train de préparer.
Oui, puisque la couverture est une de vos toiles. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que dans votre livre, on voit une photo de votre mère très belle qui a un gâteau à son effigie.
Oui, oui, voilà, c'était une personnalité assez haute en couleur. Voilà. Donc, voilà.
Peut-être qu'un jour, vous vous peindrez sur un gâteau.
Non, je pense.
Écoutez, on ne jamais dire jamais.
Oui, oui.
Vous êtes arrivée à Londres à quel âge ?
J'avais 2 ans.
2 ans. Vous vous souvenez de l'Argentine ?
Non, enfin, après, j'ai vécu entre 10 et 12 ans. Mais je me souviens très bien de Londres, c'était pendant les années 70. Donc j'ai vécu de 2 ans à 10 ans, mais c'était un peu la période dorée de ma famille, où tout le monde était ensemble, très heureux. Et oui, ma mère était un peu comme une socialite londonienne dans les années 70. Et c'est vrai qu'elle se faisait des tenues super extravagantes avec des voilettes et...
Elle voilà. Les faisait elle-même ?
Oui, il y a des choses qu'elle se faisait elle-même. Et voilà, elle avait beaucoup de charme. Et elle ressemblait à Joan Collins un peu, voilà, et avec une personnalité voilà, comme ça, un peu provocante et tout. Et oui, donc ça m'a beaucoup inspirée.
Vous dites que vous ne l'avez vue pendant longtemps que le soir en robe de cocktail quand elle rentrait d'une soirée, mais que ça vous allait très bien.
Oui, c'est vrai. Voilà, et encore une fois, on était... 3 sœurs et mon petit frère, et donc on était un peu tous en adoration, quoi. Voilà, on était son fan club, voilà.
C'était votre première muse, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, et elle vous a fait comprendre très tôt l'importance de l'apparence, mais vous dites qu'elle, elle cachait, par son excentricité, la peur de ne pas être remarquée. Et vous, Vanessa Seward, vous préférez être remarquée ? Que vous avez l'air timide et réservée.
Je pense que j'ai une dualité qui ont beaucoup de timide, c'est-à-dire que quelque part je suis timide, mais en même temps j'aime bien me faire remarquer. Enfin voilà, c'est une dualité que j'ai. Je vois que ma fille là, enfin je pense que beaucoup de timide on peut avoir cette
ce trait de caractère. Est-ce que votre style a emprunté des choses à celui de votre mère?
Je pense que j'ai dû lui emprunter, voilà, j'assume ce côté un peu glamour, voilà, j'hésite pas, enfin, avoir un brushing, peut-être même par rapport, je vois, aux filles parisiennes, je peux assumer d'être un peu plus apprêtée que la plupart de mes amis, mais voilà. C'est un truc que j'assume.
Et votre grand-mère aussi était très coquette jusqu'à ses 97 ans.
Exactement, elle n'a jamais lâché. Donc voilà, moi je n'ai pas encore lâché. Non.
Mais c'est bien, pourquoi est-ce qu'on lâche finalement ? On pourrait se poser la question ?
C'est des questions que je peux commencer à me poser à mon âge et je trouve que oui, c'est dommage de lâcher. Je trouve que voilà, la manière qu'on se présente est encore une fois toujours intéressant et je pense que même si parfois on peut... Voilà, se sentir un peu plus invisible, on peut trouver aussi d'autres moyens, enfin, il ne faut pas lâcher.
Votre père, lui, ce n'était pas votre muse, c'était votre premier héros, et lui, vous l'admirez pour sa discrétion.
Voilà, donc je pense que je tiens beaucoup de lui aussi.
Mais vous dites aussi que vous avez épousé votre père, et alors votre mari, on va en parler, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est public, c'est le chanteur et compositeur Bertrand Burgala.
Exactement, et j'ai dit ça parce que je ne m'étais pas spécialement rendu compte, mais en fait... Bertrand ressemble beaucoup, quand je l'ai rencontré, à mon père au même âge. Sauf que mon père avait changé depuis, mais voilà, dès que je montre des photos de mon père, enfin, à l'âge de Bertrand, les gens pensent que c'est Bertrand. Donc je me dis qu'il y a un problème quelque part.
Vous avez fait une psychanalyse ?
Oui, oui.
Vous en avez parlé ?
Oui, oui.
Bon, je ne vous demande pas le verdict. Quand vos parents ont divorcé, votre mère a dû faire face à des difficultés financières. Elle est devenue vendeuse chez Dior et Azzaro. Azzaro, la maison où vous rentrerez en 2002 et dont vous deviendrez la directrice artistique. Qu'est-ce que ça vous a fait quand c'est arrivé ?
Plein de choses me sont arrivées un peu, comment dire, je peux dire que j'ai eu de la chance et en même temps j'ai saisi la chance parce qu'il faut la saisir. Oui, quelque part, c'est vrai que Azaro, quand je suis rentrée, c'était pas pour être créatrice. J'ai travaillé avec Loris Azaro en tant qu'assistante. Il est mort peu de temps après. Je l'ai pas tué, mais et on m'a dit de continuer. Donc je sentais que j'avais une mission. Je suis allée et c'était et c'est vrai que c'était troublant de me retrouver à cette place alors que j'avais passé pas mal de temps adolescente quand j'allais voir ma mère.
Qu'avez-vous d'anglais, d'argentin et de français en vous?
Alors d'anglais, je pense que oui, j'ai cette pudeur, je pense un certain humour aussi.
Vous parlez d'autodépréciation qui vous a coûté cher professionnellement.
Oui, voilà, j'ai beaucoup ce côté. On ne comprend pas toujours. Très souvent, on pense que c'est vraiment au premier degré, alors que ce n'est pas forcément. Donc, je dis aux gens de ne pas s'inquiéter trop. Mais voilà. Argentin, voilà, je pense aussi peut-être une forme de sensualité et. Voilà, rapport comme ça à la séduction qui vient d'Argentine.
Comment sont les femmes argentines? Plus apprêtées que les françaises?
Oui, parce qu'il y a un côté un peu. Enfin, dans la bourgeoisie argentine, il y a un côté un peu comme ça, peut-être. Voilà. Les hommes sont un peu plus machos, les femmes sont un peu plus en la séduction. C'est un côté un peu rétro. Mais il y a quelque chose qui me fascine aussi là-dedans, dans cette espèce de, où elles sont très en séduction, plus, oui, elles sont latines, oui.
Et le côté français, alors?
Français, je pense que, mine de rien, ça fait plus de 40 ans que j'habite ici, donc je pense que je suis parisienne.
Alors, vous êtes parisienne en quoi? Parce qu'on a souvent dit de vous que vous étiez l'archétype de la parisienne, ce qui vous amusait beaucoup, vu toutes vos origines.
Oui. Bah, je pense que voilà, j'ai vécu ici donc presque toute ma vie. Et je pense que peut-être je suis parisienne dans mon rapport avec la mode aussi, dans mon côté avec le style ou aussi j'ai peut-être cette chance qu'ont certaines Parisiennes de pouvoir porter des choses justement de maison de luxe d'une manière très décontractée, et de pouvoir les mélanger avec des choses justement très peu chères ou très anciennes. Enfin voilà, je pense peut-être que j'ai hérité ça de...
Vous dites que les Anglaises sont plus indulgentes et moins à l'affût du regard des autres et qu'on pourrait aussi en tirer une leçon.
Non, mais c'est vrai que peut-être c'est un... Je sais pas, après, j'aime pas trop faire de généralité, mais c'est vrai que il y a... Même aux États-Unis, à New York, enfin, j'ai ressenti ça aussi, où les gens peut-être se regardent moins, ou... La dernière fois que j'étais à New York, c'était pendant Halloween, et ça m'amusait de voir tous ces adultes habillés de manière vraiment ridicule.
Et
ils étaient super à l'aise, et personne ne les jugeait, et je trouvais ça super...
Martine Sidbon en est à sa deuxième collection. Cette jeune styliste qui monte ne cache pas que sa création 86-87 est influencée par le monde actuel.
Avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment, les bombes, toutes ces crises un peu, ces crises économiques et tout ça, c'est pas un contexte très très favorable, mais je pense que ça, de toute façon, les gens ont envie de nouveau et le commerce doit continuer, enfin, la vie doit continuer de toute façon.
Originale sans être excessive, Martine Sidbon a d'abord séduit l'Italie avant de s'attaquer à la France. Aujourd'hui, sa marque est distribuée un peu partout en Europe. Mais elle n'a pas encore de boutique à son nom. Elle rêve d'en ouvrir une à Paris. Premier pas vers la consécration.
Vanessa Seward, vous avez suivi les cours de l'école de mode parisienne Studio Berceau et en sortant, vous rêviez de travailler pour Martine Sidbon, l'ancienne directrice de création de la marque Chloé et styliste pour la marque Rue du Mail. Mais on vous a proposé, alors pardon, on l'entendait là en 86 dans un reportage d'Alain Chabot sur France 3, mais on vous a proposé de rentrer chez Chanel et pour vous, c'était vieillot Chanel.
Oui, c'est vrai, j'admirais beaucoup Martine Sidbon. J'ai quand même fait un petit stage chez Chloé, mais c'est vrai que, voilà, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte et je trouvais que ces maisons de couture, Chanel, Dior, tout ça, je trouvais que c'était plus vieillot. Mais je me suis trompée et j'avoue de travailler avec Karl Lagerfeld, Gilles Dufour, Virginie Viard, enfin, Victoire de Castellane, tous ces gens qui étaient à ce moment-là, c'était génial.
Vous êtes beaucoup amusée.
Oui, j'ai beaucoup pleuré aussi, mais je me
suis... Ah oui, oui, oui. À cause de la pression ?
Non, mais je pense que c'était moi, j'étais très sensible dans... voilà.
Vous n'êtes sommes... plus ?
Oui, mais je pleure un peu moins. Mais non, mais on s'est beaucoup amusé aussi.
Ouais. Vous dites de cette époque que tout était plus instinctif, spontané, qu'on parlait peu de mode parce qu'on la faisait, et que les filles pensaient aux garçons et pas aux selfies.
Oui, oui, c'est, bah, au studio, c'est vrai, on parlait beaucoup de où on allait sortir le soir, et c'était presque plus important que on lisait « Voici en cachette sous les tables pendant les essayages ». C'était plus léger. Et c'est vrai qu'il y avait le marketing n'était pas encore vraiment rentré dans la mode, donc c'était très instinctif. Et oui, c'était léger, c'était marrant. Il y a eu, j'étais là pendant toutes les années, Claudia Schiffer, les collections Barbie, voilà, c'était...
En parlant de Barbie, vous n'avez pas eu une Barbie quand vous étiez petite, vous avez eu une Daisy, et conçue par une styliste, Marie Quant.
Oui, très chic. Hein oui. Voilà, donc j'y crois, que c'est pour ça que ma fille aussi, j'ai vraiment essayé de... Voilà, je pense que c'est important.
Elle n'a pas de Barbie, votre fille ?
Non, elle n'a pas eu. Enfin, elle a eu aussi, elle a eu quelques Barbie Disney quand même, mais après, elle leur faisait des habits, donc c'est bien.
Ah, écoutez, ça se transmet.
Oui.
Oui, je connais très bien Loris, et je dois dire que c'est un de mes couturiers préférés parce qu'il habille la femme d'une façon extraordinaire. Je crois qu'il nous aime beaucoup, nous, les femmes. Et ses robes, elles sont toujours très féminines, très sexy, elles adhèrent au corps, elles mettent en valeur la femme. Ouais. Et ça, c'est formidable.
Dalida a bien défini, j'essaye de faire une femme la plus belle possible. Avec elle, c'est pas difficile parce que tout lui va. Et je crois qu'elle a raison de dire qu'il ne faut pas suivre la mode. Il faut essayer de se mettre, surtout dans son métier, de se mettre en valeur le plus possible.
Dalida et le créateur Loris Azzaro en 85 sur Antenne 2. Vanessa Seward, comment s'est faite votre entrée chez lui ?
Après Chanel, donc j'avais travaillé chez Saint-Laurent avec Tom Ford. Et donc ça s'est arrêté, j'avais 30 ans je pense, et déjà c'était, voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire, si j'allais continuer dans la mode ou pas. Et cette maison, donc, Loris Azzaro, c'était un peu, voilà, elle était devenue un peu désuète, on n'en parlait plus trop. Et voilà, on m'a appelé pour travailler donc avec lui, et je savais le potentiel, puisque ma mère avait travaillé comme vendeuse. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'était quelqu'un... Enfin, il était super. Et on a créé une collection ensemble, ce qui était génial. Et c'est avec lui que j'ai fait mes premiers modèles, parce que jusqu'à là, j'avais plutôt travaillé sur les accessoires. Et avec lui, j'ai fait les premières robes de soir. Et...
Dans une robe mythique qui est, je l'ai découverte en préparant cette émission, la robe Trois Anneaux.
Ça, c'est une robe donc, de Loris Azzaro qu'il avait fait dans les années 70, mais que je voulais absolument qu'il refasse, parce que c'était à ce moment-là, tout le vintage revenait très à la mode, et il y avait Nicole Kidman qui avait porté, je pense, cette robe peut-être pour les Oscars ou quelque chose, et je lui ai dit, si vous ne le faites pas, on va vous la copier, donc vaut mieux que ce soit. Et donc, il voulait pas refaire des choses qu'il avait fait, sauf si on les changeait, on les améliorait. Donc voilà, c'est ce qu'on avait fait.
Pourquoi, à votre avis, a-t-il autant d'hommes dans la haute couture pour femmes ?
C'est vrai, je me suis souvent posé cette question, et souvent j'ai fait le parallèle avec la cuisine, comme enfin, les grands cuisiniers pendant longtemps étaient des hommes, et puis les femmes en faisaient à manger. Et souvent dans la mode, les femmes c'était plus celles où on faisait les vêtements du quotidien, mais là, enfin, les choses... Alors qu'on oublie, mais quand même, dans les années 30, il y avait Vionnet, Schiaparelli, Chanel et tout ça. Donc voilà, après... C'est difficile hein, de faire en même temps une carrière dans la mode et avoir une famille. Et, enfin, voilà, donc peut-être aussi ça n'aide pas.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Vous devez être vraiment très riche.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce qu'il faut vraiment tout faire à votre place.
retrouver une petite pizzeria sympathique dans ma vieille ville.
Ah non, juste... non, mais moi c'est pas pizzeria sympathique. Hein. J'ai des envies de caviar. En fait, j'aime pas le caviar. Je me force comme ça. Je me dis qu'un jour ça viendra.
2006, le film Hors de prix de Pierre Salvadori avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Vanessa Seward, vous avez dessiné la garde-robe d'Audrey Tautou pour le film.
En fait, c'est une costumière, Virginie Montel, qui m'avait approchée. Et c'est vrai que, voilà, on avait préparé plein de tenues pour Audrey Tautou. Mais...
Ah d'accord, et alors pour Valérie Le Mercier dans Main dans la main de Valérie Donzelli.
Alors là, oui, j'avais... Ah. Voilà.
Vous voyez.
Là, Valérie Donzelli m'avait demandé et j'ai créé des tenues pour Valérie Le Mercier pour ce film.
Est-ce que ça change beaucoup selon le média pour lequel vous travaillez? Comment vous travaillez? Est-ce que vous vous êtes inspiré par des films? Est-ce que vous allez voir des tableaux? Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous dessinez à la main? Comment vous travaillez?
Je dessine à la main, d'ailleurs. Oui. Je suis nulle en informatique.
Donc là, vous êtes anglaise, là. Vous vous dépréciez.
Oui, voilà. Il fallait bien. Non, je fais tout à la main. Après, quand je travaille sur des films, c'est la personnalité et l'actrice qui m'inspire. Et je connaissais Valérie Le Mercier, qui est une actrice super inspirante. Donc, voilà. Et entre le personnage et Valérie, c'était facile.
Mon amour, oh mon amour,
Geneviève, ma petite Geneviève,
Guy, je t'aime. Tu sens l'essence,
c'est un parfum comme un autre.
Guy, je t'aime, oh Guy, je t'aime. Un client, je me sauve à 8h devant.
Devant le magasin de Michel Legrand, dans les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, interprété par Daniel Licari et José Bartel. Vanessa Seward, vous avez aussi œuvré pour le théâtre. Vous avez fait les costumes des parapluies de Cherbourg par Vincent Vitoz au Théâtre du Châtelet. Et c'était très intimidant pour vous de vous confronter au film que Michel Legrand décrit dans ses mémoires comme un Matisse qui danserait.
Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais j'étais tellement contente. Je crois que c'est une de mon expérience professionnelle préférée, parce que j'ai eu la chance d'être dans des rendez-vous où j'étais avec Michel Legrand et Sampé qui faisaient les décors. Et c'est vrai que je crois que le costumier et le chef déco sur le film étaient un couple qui travaillait très bien ensemble, et ça se sent parce que les décors et les vêtements sont... Bon, j'ai oublié leur nom. Et moi, je me suis inspirée un peu de Sampé. C'était une comédie musicale où c'était vraiment l'orchestre aussi qui était mis en valeur. C'était, je ne sais pas le nom exactement. Donc, il n'y avait pas une mise en scène très importante. C'était très léger. Et mais j'ai un peu surligné les costumes pour faire penser à Sampé. Je me suis beaucoup inspirée de Sampé.
Et pas Matisse?
Des couleurs, j'ai essayé de garder cette histoire de couleurs, mais je l'ai fait un peu différemment.
Vous avez imaginé plusieurs collections pour la marque APC, ensuite vous avez lancé votre propre marque et vous dites que créer sa marque, c'est comme entreprendre une psychanalyse.
Parce que j'avais plus l'habitude de travailler sur des marques qui avaient déjà des identités, et c'était plus facile. Et là, quelque part, parfois, c'est difficile de se regarder, donc il faut presque mettre de la distance. Et voilà, mais je l'ai fait.
Les défilés aussi, pour vous, c'était un enjeu fort, puisque vous dites que c'est presque comme être nu. Tout le monde voit votre identité avec le défilé.
C'est vrai, mais après, écrire un livre, c'est encore plus.
Se mettre tout nu, oui.
Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas créer sans se dévoiler. Et voilà.
Il y a une chose qui revient, mais je ne sais pas si c'est parce que vous êtes d'ascendance britannique ou pas, c'est votre manque de confiance en vous. Vous êtes marié au chanteur, auteur, compositeur et directeur du label Tricatel, Bertrand Burgala, qui fait aussi les musiques de vos défilés et qui vous connaît mieux que personne. Et il dit que vous manquez de confiance en vous, mais que cela dissimule une profonde détermination. Et il ajoute, cette recherche d'assurance explique son intérêt pour le vêtement. Il doit donner confiance à la personne qui le porte. Elle ne cherche pas le déguisement, l'excentricité surjouée, le simulacre rock ou l'intellectualisme un peu cuistre.
Voilà. Ouais, il dit tout ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, quelques phrases.
vous parlez de votre fascination pour les personnes qui ont l'air d'avoir confiance en elles, justement, dans votre livre, et pour votre tendresse, pour ceux dont vous percevez les failles. D'où pensez-vous que vienne ce manque de confiance en vous ?
Oh, je pense que c'est mon éducation, sûrement.
Elle était sévère ?
Elle était sévère, ma place dans la famille, j'avais une sœur aînée qui était l'artiste de la famille, je vais pas refaire mon... je pense que c'est quelque chose comme ça, mais en même temps, c'est vrai, je suis déterminée, je suis très têtue, quand je veux quelque chose, je lâche pas, et je suis très perfectionniste, donc... je pense que je comble ce manque de confiance en moi fait que je vais très loin pour essayer de combler et c'est aussi pour ça que j'arrive peut-être.
Vous écrivez que vous pensiez qu'à 50 ans, une femme compensait en assurance les signes de vieillissement. Et c'est vrai, dites-vous. Et vous citez, et c'est assez réjouissant, la comtesse de Ségur qui a écrit son premier livre à 57 ans, ou Toni Morrison, ou Louise Bourgeois.
Voilà, et c'est parce que une autre chose dont je parle dans le livre qui m'obsède, c'est ce moment où justement on sent que c'est le point culminant et qu'après tout va vers le bas. Et j'essaye de me dire que voilà, on pense toujours que c'est, je sais pas, 30 ans ou peut-être maintenant 40 ans, mais je pense qu'on peut encore faire des choses de la même manière que je dis, je lâche pas. Je pense que voilà, on peut se réinventer tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas juste s'accrocher à cette illusion que c'est la jeunesse qui est le meilleur moment de la vie.
D'ailleurs, après presque chaque décennie, vous vous disiez « bon, bah, c'est fini, c'est fini, c'est fini ». Et en fait, vous avez ce dicton argentin qui vous est venu « mala hierba nunca muere », la mauvaise herbe ne meurt jamais. Mais vous n'êtes pas une mauvaise herbe, tout de même.
Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être comme un chat. Je retombe sur mes pieds chaque fois. Et je trouve ça bien. Je trouve que... Voilà, c'est quand ma marque est finie, je ne savais pas si j'allais retravailler dans la mode. Après, il y a cette nouvelle aventure avec les portraits. C'est complètement me remettre en question parce qu'en plus, je trouve que l'art, c'est très intimidant. D'ailleurs, j'y pense pas trop, je fais. Et puis avec la mode, je suis contente parce que finalement, j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais je la fais différemment. Cette marque écossaise, par exemple, avec laquelle je travaille maintenant, je trouve que là, c'est vraiment un produit que si quelqu'un l'achète, ils peuvent le garder à vie. C'est une qualité incroyable, c'est B Corp, ça n'a pas tout ce truc où on peut se dire dans la mode aujourd'hui un truc de gaspillage parce que...
Oui, ça c'est le label des entreprises qui ne polluent pas trop, c'est ça?
Exactement. Et je travaille quand je vais en Écosse, je travaille dans le mill, l'usine, et je vois que tout le monde est super. Ils ont travaillé là depuis toute leur vie, leurs parents aussi. Enfin, il y a un truc de savoir-faire qui me touche beaucoup. Donc pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux. Voilà. Pour la mode. Da 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 da. Thank you.
C'est votre choix musical, Vanessa Seward. Vous êtes un peu biaisée quand même, parce que c'est Bertrand Burgala, correspondance.
Avec ma fille, Jacqueline.
Ah oui?
Ma fille Jacqueline qui chante. Je crois qu'elle avait 7 ans quand ils ont enregistré.
Alors tout se transmet dans cette famille.
Oui. Mais ça m'émeut parce que justement... voilà, elle est assez timide. D'ailleurs, elle pense que ouais, truc comme ça, mais elle pense qu'elle peut pas chanter alors que j'adore sa voix et qui est super touchante. Elle a une voix avec beaucoup d'émotion et il y a pas de paroles et en même temps, voilà, justement comme beaucoup de choses, il y a pas de paroles et donc l'imaginaire est tellement plus fort que ça se limite pas.
Pour le guide de la Gentlewoman, votre abécédaire autobiographique publié chez Lattès, vous craignez d'être, j'adore cette expression, wishy-washy. Oui. Alors je vous laisse nous dire ce que ça veut dire.
Ça c'est une expression que ma mère utilisait beaucoup pour dire que quelqu'un était un peu mièvre, sans intérêt. Et donc c'est vrai que...
Ça suffit, oui, Vanessa Seward.
Non, mais j'ai toute ma vie, j'ai tout fait pour essayer de ne pas la décevoir, de ne pas être washy-washy. Mais oui, c'est pas très gentil comme expression.
Non, mais alors vous avez fait appel à votre ami Mathias Debureau, journaliste et écrivain, oui, qui a écrit « Noble art de la brouille »,« Petite encyclopédie des mauvaises manières », plein d'autres ouvrages publiés chez Alary. Et comment vous avez travaillé ensemble ?
J'étais très contente que Lattès m'ait laissé faire le livre avec lui parce que c'est un auteur qui a beaucoup d'esprit, et il écrit super bien. D'ailleurs, je l'ai rencontré parce que c'est un ami de Bertrand Burgala, donc mon mari, et il a écrit des chansons que j'adore pour lui. Et au début, on a beaucoup parlé. C'est lui qui a eu l'idée de la Gentlewoman, ce qui était bien pour moi parce que je voulais justement pas faire un truc direct et je voulais pas faire un énième livre sur la Parisienne et c'était un peu comme une alter ego. Et c'est lui aussi qui a eu l'idée de l'abécédaire. Donc après, on s'est un peu réparti les entrées. Tout ce qui était plus personnel, c'était moi. Et tout ce qui était... Il est très fort en anecdotes. Et voilà, donc...
En créant les modèles pour les films, il m'a habillé pour Belle de Jour, il m'a habillé pour La Chamade, il m'a habillé pour La Sirène du Mississippi. C'est quelqu'un qui est sur sa propre recherche et c'est quelqu'un qui affine sans arrêt, qui est en train de... qui travaille sur son style qui est très personnel. Et on retrouve toujours cette structure qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire vraiment une construction qui est vraiment une silhouette qu'on reconnaît immédiatement. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui est quand même souvent en public, c'est vrai qu'un vêtement dans lequel on se sent bien, et c'est pas forcément un vêtement dans lequel on est plus belle, c'est un vêtement dans lequel on se sent bien, dans lequel on bouge bien, c'est très utile, c'est important. Ça donne déjà, je veux dire, une certaine confiance dont on manque souvent.
Là, c'est un extrait parfait pour vous, Vanessa Seward. Une confiance dont on manque souvent. C'est Catherine Deneuve au sujet d'Yves Saint-Laurent en 95 dans Soir 3. Et comme vous aimez le mystère et ne pas tout dévoiler, il paraît que vous vous posez souvent une question concernant Catherine Deneuve.
Oui, c'est ça. Est-ce que Catherine Deneuve le ferait ? Est-ce qu'elle montrerait ça ? Parce que bon, c'est une femme que j'admire beaucoup et je trouve qu'à part être une incroyable actrice, c'est une femme qui connaît tellement bien les vêtements et le style. Un peu comme Valérie Le Mercier aussi. Et donc, elles sont super inspirantes. Et j'ai eu la chance d'habiller les deux. Et voilà, je trouve ça un énorme privilège parce que j'adore leur connaissance des vêtements. Elles ont un style incroyable.
Chic Habit par l'américaine April March, version anglaise de Laisse tomber les filles, composée et écrite par Gainsbourg pour France Gall. Et Vanessa Seward, vous avez fait son portrait, celui d'April March, au pastel et à l'huile sur carte pastel, parce que vous allez bientôt exposer des portraits de femmes qui vous inspirent.
Exactement, donc elle est dedans parce que pareil, c'est une amie et j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait des disques avec mon mari.
Ah bah décidément.
Voilà, bah oui, décidément. Et donc oui, je vais faire une exposition en juin
en deux temps. Je donnerai toutes les informations pratiques à la fin de l'émission, mais c'est votre deuxième solo show.
Exactement. Et donc, c'est encore une fois que des portraits de femmes. Je vais faire aussi trois femmes qui m'inspirent, qui sont dans leur soixantaine. Et ça, c'était important pour moi aussi, parce que je voulais aussi mettre en avant, justement, une espèce de manière de vieillir, justement, où, encore une fois, c'est des femmes très inspirantes, parce que, voilà, elles sont belles dans leur âge, et voilà. Donc, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre en valeur à travers mes portraits. Et sinon, voilà, il y a plein de femmes qui m'inspirent.
Là, je pense à Audrey Hepburn, parce qu'Audrey Hepburn, âgée, était absolument sublime.
Exactement, et je pense que, voilà, elle s'était pas trop traficotée.
Non, on dirait pas.
C'est pas une critique par rapport aux femmes qui le font, mais je trouve que c'est bien aussi de donner des exemples de femmes qui le font pas, parce que c'est presque rare de nos jours, et voilà.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
C'est Fred Astaire qui chante Cheek to Cheek dans Top Hat de Mark Sandrich, une comédie musicale que vous adorez, Vanessa Seward. Il danse avec Ginger Rogers. Vous, votre rêve, ça aurait été d'être costumière pour les studios hollywoodiens des années 30 ou 40, alors qu'on vous ramène toujours aux années 70 et que vous avez même interdit à un moment qu'on qualifie votre travail d'inspiré par les années 70.
Oui, parce que c'était un peu systématique et il n'y avait pas que ça. Et oui, c'est vrai que j'aurais aimé vivre dans une comédie musicale des studios d'Hollywood. Je trouve que c'est un moment tellement magique où ils faisaient venir les plus grands talents du monde entier pour les costumes, pour les scénarios, et la musique. Enfin, voilà, c'est vrai, c'est quelque chose que j'adore.
Alors, j'aime bien terminer par des recommandations. Vous avez le droit de choisir entre trois choses que vous adorez. Le livre « L'allure de Chanel » de Paul Morand, le photographe Antonio Lopez ou Henry James?
Antonio Lopez.
Allez-y.
Donc, Antonio Lopez, c'était un photographe et illustrateur incroyable. Il a eu sa période la plus connue et pendant les années 70. Il était donc très proche de la mode. D'ailleurs, il a beaucoup collaboré avec Karl Lagerfeld, notamment quand il a fait Chloé. À cette époque-là.
Il n'a pas écrit de chanson pour Bertrand Burgala.
Non. Non. Et j'avoue que même si ses illustrations sont incroyables, j'adore ses photos. Il a découvert plein de mannequins, genre Jerry Hall, Pat Cleveland. Et il y a une espèce de liberté, justement une légèreté, une sensualité dans son travail qui m'inspire beaucoup.
Merci beaucoup, Vanessa Seward.
Merci Eva.
Votre ouvrage Le guide de la gentlewoman est paru chez Lattès et votre exposition aura lieu en deux temps. D'abord du 9 au 15 juin à la galerie Montpensier dans les jardins du Palais Royal, puis du 16 au 28 juin au showroom de la galerie Mouvement Moderne, puisque c'est elle qui vous expose, également dans les jardins du Palais Royal. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfoise, Betty Algret et Franck Olivard. À la programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Loïs Moreau.